Chapitre 4. Hélène. Comme toujours, il roule un peu trop vite. Elle ne dit rien, parce que ça le mettrait de mauvaise humeur. Et de toute façon, ce n'est pas une remarque qui le ferait ralentir. Il appuie la main sur le cuir du volant, et elle devine son plaisir à le sentir glisser sous sa paume. Elle essaie de ne pas penser au risque d'accident, aux 3 enfants à l'arrière. Elle s'abandonne aux sensations immédiates. Elle se tasse au fond du siège, se tourne vers la vitre et ferme les yeux. À l'intérieur du monospace, on ne sent pas la vitesse. On est comme dans une bulle moelleuse et confortable qui amortit la violence de la route. Quand elle était petite, elle était toujours malade en voiture. Mais c'est passé depuis qu'elle voyage à l'avant. Ses enfants ne sont jamais malades, même quand Alexandre roule à toute allure sur les petites routes de campagne. C'est déjà ça. Il est fier de sa nouvelle voiture de fonction. Une luxueuse 806 intérieur cuir. Elle déteste l'odeur du cuir, mais elle ne la sent que pendant le premier quart d'heure. Après, elle s'habitue. Tout est réglable à l'intérieur. Les stores, les appuis-têtes, l'inclinaison et jusqu'à la forme des sièges. Tout est prévu pour qu'on voyage le plus confortablement possible. Lorsqu'ils ont appris qu'on pouvait faire pivoter les sièges et pique-niquer à l'intérieur de la voiture, les enfants étaient tout excités. Mais Alexandre a immédiatement coupé court à leur joie. Pas question de manger dans la voiture. Rien qu'à l'idée d'une miette de BN au chocolat sur la moquette, il est au bord de l'apoplexie. Merde, tu te rends compte? C'est moi qui accueille les Allemands de Düsseldorf à l'aéroport mardi. Tu crois que j'aurai le temps de la faire nettoyer d'ici là? Évidemment, mon chéri. C'est une raison parfaitement valable pour n'utiliser ni les sièges pivotants, ni les tablettes et leurs petits réceptacles à gobelets si amusants. Que pourraient penser les Allemands de Düsseldorf? Ces gens-là ont horreur du laisser-aller, c'est bien connu. Comment ai-je pu être assez bête pour oublier qu'une miette de biscuit sur la moquette à l'arrière pourrait compromettre la signature du contrat? Pardon, mon chéri, d'avoir été aussi bête. Finalement, ils se sont arrêtés sur l'autoroute, dans un courte-paille. Et les enfants ont trouvé tout aussi drôle de déjeuner dans une fausse chaumière qui ressemble à la maison d'Astérix. Elle se souvient d'une publicité qui passait il y a quelques années à la télévision. Une jeune femme en maillot de bain, allongée dans un hamac, mince, superbe, serrant contre elle un petit enfant. Elle est de dos. On ne voit pas son visage, seulement ses cheveux tirés en chignon découvrant une nuque gracieuse. Elle domine une piscine immense où plongent en riant des enfants bronzés. Une voix masculine dit « Elle vous a donné tout son amour et 4 beaux enfants ?» Puis le chiffre 806 apparaît en bas de l'écran. Connaissant Alexandre, elle est sûre qu'il a pensé à cette publicité lorsqu'il a choisi le modèle de sa voiture de fonction. Une belle femme, 4 beaux enfants, une piscine, une 806. La plus belle image de la réussite. Il peut être content. Il a la piscine et la 806. 3 enfants au lieu de 4, ce n'est déjà pas si mal. Les leurs ne sont sans doute pas aussi beaux que ceux de la publicité. Ils ont tous hérité du grand front caractéristique de la famille Clouet, totalement disproportionné sur un visage d'enfant. Ça lui rappelle un souvenir pénible. La première fois que sa mère a vu Pauline. Elle était fière de son premier bébé. Le front, ça ne la choquait pas. C'était celui d'Alexandre, voilà tout. Mais sa mère a eu l'air bouleversée. « C'est incroyable, le front qu'elle a! C'est normal, tu crois ?» Après, c'était parti. On ne pouvait plus l'arrêter. Sa mère a palpé la tête, examiné le profil, comme si elle voulait sur le champ établir une fiche anthropométrique de la petite. Plus rien d'autre ne comptait que ce front bombé, anormalement proéminent. « Maman !» Elle a été vue par le pédiatre à la sortie de la maternité. Tout est parfaitement normal. Tu vois bien que c'est un bébé en bonne santé. Mais sa mère a persisté dans ses doutes, soupçonnant toutes sortes de défaillances chez le pédiatre, chez l'échographiste. C'est bien connu. Un tas de choses leur échappent. Chez sa propre fille aussi. On les aime tant qu'on ne voit plus la réalité en face. Il faut un regard extérieur pour signaler l'évidence. Comme elle résistait, sa mère l'a pressée de consulter un pédiatre en ville. « Ils sont plus sûrs qu'à l'hôpital où ils travaillent à la chaîne pour le tout venant. Si seulement tu avais accepté d'accoucher à la pergola comme ta cousine. Hélène, je t'en prie, va voir un spécialiste sans tarder. Si tu ne le fais pas pour la petite, fais-le pour moi. » Elle l'a laissé continuer un moment, si fatiguée, soudain. Puis, les larmes au bord des paupières, elle a fini par demander « Tu le trouves si laid que ça, ce bébé ?»« Mais pas du tout, qu'est-ce que tu vas t'imaginer ?» a répliqué sa mère indignée. « Ma chérie, il ne faut pas tout prendre de travers. C'est normal que je m'inquiète, que je me préoccupe. Si je ne peux plus rien dire, elle est très belle, cette petite. C'est le portrait de son père. C'est vrai, hein ? Elle est très clouée. C'est une clouette au craché. » Elle regarde les trois enfants à l'arrière dans la petite glace de son pare-soleil qu'elle oriente pour mieux les voir. C'est vrai, Pauline est une clouette au craché. Yeux bleus, cheveux blonds, presque blancs, et grand front proéminent. Et Clémence aussi est une clouette au craché. Et Adrien. En fait, elle a beau scruter le visage de ses enfants, elle ne voit rien de son propre visage. Les oreilles peut-être, petites, jolies, bien plaquées sur le côté de la tête. Mais qui regarde les oreilles ? Elle a mis au monde des clouettes ou crachées. C'est comme s'ils n'avaient rien pris d'elle et tout hérité de leur père. Comme si elle n'avait été qu'un ventre. Le réceptacle d'un précieux dépôt auquel elle n'aurait apporté que chaleur et nourriture. Ça lui rappelle les théories d'Aristote sur la génération des animaux. La femelle fournit l'habitacle, son ventre, et la matière, son sang. Le mâle donne la forme, l'étincelle de vie façonnant la matière, son noble sperme. Peut-être que les choses se passent parfois comme ça, après tout. Oui, c'est bien ça. Elle est une bonne petite femelle aristotélicienne qui a fait des petits clouettes ou crachés. À quoi tu penses ? Demande Alexandre. À Aristote ? Ah. Il ne lui demande pratiquement jamais à quoi elle pense. C'est étrange qu'il ait posé la question juste au moment où elle pensait à Aristote. C'est étrange, mais ça n'a pas l'air de le perturber. Ils sont dans la voiture avec les enfants, ils vont au mariage de Bérangère, et elle pense à Aristote. Alexandre trouve ça normal. Alexandre est doté d'une ouverture d'esprit exceptionnelle. Rien ne le surprend. Ou alors, il n'a pas écouté sa réponse. D'ailleurs, pour signifier clairement que la discussion est close, il monte un peu le son qui jaillit des enceintes dissimulées partout dans la voiture. Depuis le début du trajet, les Pink Floyd, Fleetwood Mac, Genesis et Alexandre qui chantent en se tortillant sur son siège de cuir. Depuis quelque temps, il écoute à nouveau les tubes de son adolescence, pour oublier qu'il est devenu un trentenaire content de soi après avoir été un adolescent conformiste. Il roule dans une luxueuse voiture de fonction. Il porte des Weston et des costumes à 2000 euros. Mais il a su rester jeune. La preuve, il aime mettre des jeans et des t-shirts usés le week-end. Pas de chemise Vichy ou de polo Lacoste. Il trouve que c'est trop conventionnel. Sur Monet, il monte le son et chante encore plus fort en pianotant sur le volant gainé de cuir. « Money, get away, take a good job with more pain, you're okay. » Elle résiste à l'envie de lui hurler qu'elle a mal à la tête, qu'elle voudrait un peu de silence, elle n'en peut plus. « Essaie de te calmer, ce n'est pas si grave, tout n'est pas si noir. Il n'y a pas de raison de mettre en cause les Pink Floyd après tout. » S'il écoutait de la musique classique, ça t'agacerait sans doute encore plus. Elle tourne la tête, regarde la forêt, si dense, si verte, qui défile à toute allure, puis ferme les yeux. « Nous avons tout », pense-t-elle. C'est une phrase de sa mère. Chaque fois qu'au téléphone, elle lui laisse soupçonner que ça ne va pas très bien, cette phrase revient immanquablement. « Mais enfin, je ne te comprends pas, Hélène. Tu as tout. Une maison, une piscine. » Une piscine en région parisienne, Hélène. Des enfants en bonne santé. Elle ne dit pas de beaux enfants. Elle n'a jamais pu s'habituer à la tête clouette ou crachée, mais ça ne l'empêche pas d'aimer ses petits-enfants. Un mari qui t'aime, qui gagne bien, très bien, sa vie. Je ne te parle même pas de la maison de Bretagne, des voyages, un travail pas trop fatigant. On dira ce qu'on voudra, mais vous avez tout de même 3 mois de vacances dans l'année. Vraiment, Hélène, est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as ?
Que peut-on répondre à cela ? C'est incontestable. Elle a tout.
Et puis, c'est tellement pratique de voir les choses comme ça. Elle a tout. Où est le problème ? De toute façon, elle n'a pas particulièrement envie d'en parler à sa mère. D'ailleurs, il n'y a rien à dire. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle est frappée par l'éclat de sa bague de fiançailles. Un gros saphir serticlo, entouré de brillants de belle taille, le tout constituant un ensemble imposant. Comment a-t-elle pu choisir un modèle pareil? C'est incroyable ce que les goûts évoluent au cours d'une vie, en à peine plus de 10 ans. Elle se souvient parfaitement du prix, 30 000 francs à l'époque. Elle était fière de posséder un bijou aussi coûteux. Elle regardait sa bague à longueur de journée, faisait jouer la lumière dans les pierres, donnait à sa main des poses gracieuses. Une petite fiancée amoureuse avec une grosse bague marguerite à 30 000 francs. Aujourd'hui, elle a du mal à en supporter la vue. Elle ne la met pour ainsi dire jamais, seulement pour les fêtes de famille, parce que c'est le seul bijou de prix qu'elle possède et que, de toute façon, sa belle-mère remarquerait immédiatement son absence, et ça ferait toute une histoire. Ça la fatigue tellement par avance qu'elle préfère la porter. Du reste, la bague n'a rien d'incongru dans une fête de famille. Tout le monde a la même, à peu de choses près. Il n'y a que la couleur de la pierre qui change. Elle regarde sa bague, dont les bords dentelés lui font irrésistiblement penser au contour d'un moule à tarte. « Je porte au doigt un moule à tarte à 30 000 balles. » Elle referme les yeux, essaie de se concentrer sur autre chose. La publicité pour la 806 lui revient à l'esprit. Cette jeune femme superbe allongée dans le hamac, il y a encore quelques années, ça aurait presque pu être elle. Après ses 2 premières grossesses, elle a gardé une jolie silhouette. Mais elle ne s'est pas aussi bien remise de la naissance d'Adrien. Elle a peut-être été un peu moins rigoureuse que pour Pauline et Clémence. Elle n'a pas réussi à perdre les 5 kilos qui s'accrochent à ses hanches, ses cuisses et son ventre. Elle est moins jolie qu'autrefois. Un peu plus ronde, un peu moins fraîche. Elle en a parfaitement conscience. Elle en souffre, mais elle a décidé, sans trop savoir pourquoi, qu'elle n'avait pas envie de se forcer. Les efforts pour tout, elle en a assez. Alexandre n'a fait aucune remarque, absolument aucune. Rien n'a changé dans leur vie. Elle a simplement 5 kilos de trop. D'ailleurs, lui aussi s'est épaissi depuis qu'il multiplie les repas d'affaires et qu'il n'a plus le temps pour ses soirées de squash au country club. Il a pris du ventre, une petite brioche bien installée autour du nombril. Elle sait que ça ne partira plus. Il n'y a pas de raison. Le nombre de repas d'affaires sera proportionnel à la réussite professionnelle de son mari et Alexandre est bien parti pour réussir. Alors voilà. Ils grossiront et vieilliront ensemble, côte à côte. Ils rouleront dans la 806 de fonction sur les routes radieuses de l'existence. Les petits ont fini par s'endormir. Leur tête s'incline un peu dans les virages, révèle leur profil. Après le déjeuner sur l'aire d'autoroute, elle leur a fait enfiler leur costume d'enfant d'honneur. Robe à smock rose brodée main pour les filles, bermuda bleu marine et chemise rose pour Adrien. Cette fois-ci, on a échappé au nœud papillon ou à la lavalière. Elle n'aime pas les robes à smock, sauf pour les bébés. Sur les bébés, c'est délicieusement suranné, comme échappé d'un daguerréotype. Mais sur des gamines de 6 à 8 ans, c'est carrément tarte. De toute façon, elle se rend compte qu'elle ne supporte plus la vue d'un cortège d'honneur. Elle essaie de se remémorer tous ceux des mariages auxquels elle a assisté. Ce défilé de couleurs pastel, rose, jaune, bleu, vert, taffetas marron glacé, piqué de coton rouge vif, satin mauve, lin blanc, petits nœuds, soquettes festonnées, dentelles, rubans, couronnes de fleurs, chapeaux de paille, ceintures et petites cravates ridicules, parfois un panier rempli de dragées ou une bourse en tulle fermée d'un cordon de soie. C'est tout simplement grotesque. Elle n'en peut vraiment plus de ces cortèges décoratifs, de ces déguisements rituels. Alexandre s'énerve, ils vont être en retard. Cela serait sans importance s'ils n'étaient que des invités anonymes, mais c'est le mariage de Bérangère, tout de même, et les enfants font partie du cortège d'honneur. Le plan sur les genoux, elle guide Alexandre à travers les petites routes de campagne. Il s'énerve, parce que Bérangère n'a pas voulu se marier à Saint-André-du-Chêne comme tout le monde. Elle a préféré une chapelle romane adorable perdue dans la cambrousse. Il faut être vraiment tordu pour aller se marier dans un trou. Chérie, Saint-André-du-Chêne aussi, c'est un trou. Bérangère est tombée amoureuse de cette chapelle, tu sais bien. Ta sœur a tout de même le droit de se marier ailleurs qu'à Saint-André qui, soit dit en passant, n'a aucun intérêt. Sulpicienne a crevé. Elle revoit le Christ en plâtre, l'air serein, un peu bête, montrant du doigt son cœur embrasé entouré d'une couronne d'épines. Ses joues roses, ses lèvres rouges, ses yeux bleus et son cœur qui lance des rayons dorés. Et cette litanie de saints trop colorés, aux yeux révulsés, sainte Thérèse, saint Georges combattant le dragon, la Vierge écrasant le serpent de son pied fleuri d'une rose, on ne peut vraiment pas en vouloir à Bérengère d'avoir souhaité changer de décor. Alexandre ne répond rien. Il se contente d'émettre quelques grommellements inaudibles. « C'est parce que j'ai raison, » pense-t-elle. Il traverse plusieurs villages à toute allure. Elle reste crispée sur son siège. Elle a l'impression qu'un drame pourrait survenir à tout moment lorsqu'Alexandre roule à cette vitesse. Il peste. Les explications du plan ne sont pas claires, d'après lui. « Si tu n'avais pas traversé le village comme un fou, on n'aurait pas raté le panneau. » Il est obligé de faire demi-tour et croit bon de manifester sa mauvaise humeur en critiquant les explications fournies par ce « plan à la con ». Tu en parleras à Vincent, c'est lui qui l'a rédigé. Il traverse le village dans l'autre sens. Le panneau est bien là, juste avant la mairie, comme indiqué sur le plan. C'est vrai qu'il est en retrait sur le carrefour. Il passe facilement inaperçu si on roule un peu vite. On y est presque. Les enfants se sont réveillés quand Alexandre s'est mis à s'énerver contre le plan à la con. Du coup, il n'arrête pas de répéter « plan à la con, plan à la con », ce qui ne fait qu'accroître l'agacement d'Alexandre. Elle se retourne. « Les enfants, on ne dit pas « plan à la con », on dit « plan de la conne ». Les enfants hurlent de rire, même s'ils n'ont pas vraiment compris. Ils se mettent à répéter « plan de la conne » à tue-tête. « C'est malin !» grogne Alexandre. « Tu les encourages avec ton humour à la con !»« Et toi, tu les encourages, mais sans humour du tout. »« Bon, » concède-t-il, « on ne va pas se disputer pour une histoire à la con. » Elle sourit. « Bien sûr que non, on ne va pas se disputer. »